tous, c'est Kabadou avec vous dans votre émission interactive À votre avis. Nous parlons des djihadistes qui ont repris temporairement hier le contrôle de la base militaire avancée du village de Sokolo, proche de la frontière mauritanienne. Ils avaient déjà attaqué dimanche, faisant 20 morts parmi les soldats. Alors, Sokolo est proche de la frontière de la Mauritanie. Les FAMA, les forces armées maliennes, ont réoccupé le village dans un petit temps, mais les militaires maliens se sont ensuite repliés sur la localité voisine de Diabali, où les djihadistes sont revenus à Sokolo, ont déclaré plusieurs soldats et plusieurs habitants. Alors comment faire pour mieux préparer l'armée? Comment venir à bout des djihadistes? C'est notre sujet ce soir. Et un seul numéro pour participer, le 001 202 205 26 33. Vous avez également la possibilité de laisser votre numéro de téléphone en amont sur la page Facebook VOA Afrique. Alors vous êtes nombreux à vous interroger. C'est le cas de Sabala Kafi qui dit: est-ce que la République malienne est finalement divisée en deux géographiquement? Jos Gab lui dit: le grand problème est que ceux qui combattent le terrorisme sont peut-être les mêmes qui le financent. Karim Santi lui dit: je pose autant de questions, quelle est l'origine de cette guerre et à qui profite-t-elle? Alors nous allons en discuter. Un seul numéro pour participer, le 001 202 205 26 33. Alors nous avons des auditeurs qui souhaitent participer. Aruna Baldé qui est à Dakar, au Sénégal. Bonsoir Aruna.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la zone Afrique.
Alors du Sénégal, quel regard portez-vous sur cette situation?
Alors si on peut ébahir par rapport à cette situation, alors ce que j'ai vu, les images que j'ai vues et ce que voilà, j'ai entendu, c'est un peu c'est étonnant en quelque sorte. Il ne faut pas comprendre comment voilà, les terroristes pourraient vraiment faire reculer l'armée malienne en quelque sorte, avec peut-être tous les moyens que l'armée en a en quelque sorte. Je pense aujourd'hui c'est la population qui va en PSR en quelque sorte, surtout les habitants de ce village-là. Les terroristes vont dicter leurs règles, leurs lois en quelque sorte, surtout moi je m'en soucie des enfants voilà, qui sont innocents et les femmes qui sont vulnérables dans cette crise en quelque sorte. Voilà, et je pense que les autorités maliennes doivent vraiment réagir d'une manière plus rapide pour renverser la situation en quelque sorte. Parce qu'on ne peut pas imaginer, alors l'armée doit avoir des moyens, que ça soit des moyens logistiques, que ça soit des moyens de renseignement pour vraiment empêcher ces terroristes-là de prendre des villages en quelque sorte, parce que le Mali reste un pays unique et indivisible. Voilà. Et si ça continue ainsi, on pourra dire que voilà, le Mali est divisé en deux parties. Comment se fait-il qu'on laisse les djihadistes voilà, pénétrer dans un village et faire reculer l'armée? Je pense qu'aujourd'hui, l'opération Barkhane a un rôle majeur à jouer dans cette crise, puisque voilà, le président Emmanuel Macron avait revendiqué de d'augmenter l'effectif en quelque sorte sur le terrain. Et si on voit que ça se passe ainsi, on dirait que l'opération Barkhane, c'est-à-dire, n'a pas d'importance au Mali, en quelque sorte, comme manifester la population. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une déception vis-à-vis du gouvernement, des autorités maliennes vis-à-vis de Barkhane en quelque sorte. Parce que je m'en soucie de la population qui n'a ni moins là où aller en quelque sorte. Il faudra vraiment que le gouvernement malien réagisse d'une manière plus rapide pour renverser la tendance et sécuriser la population malienne.
Merci beaucoup.
De ce village à Sokolo, en quelque sorte.
Merci beaucoup Aruna Baldé d'avoir pu partager avec nous votre opinion. On va partir au Mali à présent avec notre auditeur Adama Togola. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous avez entendu l'auditeur avant qui parle des autorités qui doivent agir plus vite. Quelles seraient selon vous les méthodes, les solutions, les pistes à pouvoir donner pour venir à bout de ces djihadistes?
Effectivement, dans toute chose, il faut une bonne méthode. Il cite le président américain Abraham Lincoln. L'État du Mali semble injecter de fonds aux armements pour ensuite ravitailler des terroristes et d'autres forces obscurantistes suite aux attaques de camps. Les ennemis bien informés viennent sur des motos et repartent avec des engins militaires et équipements sophistiqués. Comment comprendre cette situation? Après le putsch militaire du 20 mars 2012 contre le président Amadou Toumani Touré, la junte a fait replier toutes les forces du nord vers les cendres et surtout dans la capitale, laissant les populations des trois régions du nord aux mains des coups de sang déguisés sous l'islam. tout comme à Sokoto, nous récemment attaqués, les populations sont laissées à leur sort en dépit des messages théoriques et fantaisistes à la population malienne. Récemment, le Mali a reçu des centaines d'engins blindés en provenance des Émirats Arabes Unis. Les militaires sont formés dans les académies militaires comme l'école militaire interarmes EMIA, l'école des sous-officiers ESO, ici comme ailleurs dans les écoles de guerre françaises, russes, américaines. Payés, équipés et entretenus pour la défense de la patrie, cette mission devient de plus en plus impossible, nonobstant la présence des forces étrangères aux côtés des nôtres. Les cyproquios de « on n'a pas d'armes, on n'a pas d'ordre d'attaquer » sont bannis dans la bouche maintenant des militaires, car ils sont bénéficiaires de tous les soutiens politiques et sociaux.
Adama, par rapport à ce que vous dites, là, le fait que la République tchèque veuille envoyer des hommes combattre également au Mali, est-ce pour vous quelque chose de positif ou non?
Le fait que la présence des forces étrangères.
Oui.
Vous dites.
Oui.
Oui, effectivement. Donc, c'est un atout, la présence des forces étrangères. C'est un atout maintenant pour notre armée et à notre État même à relever le défi de l'insécurité.
Donc, vous avez parlé du matériel également. Est-ce qu'il y a besoin de plus de matériel de meilleure qualité?
Effectivement, ils ont des matériels de meilleure qualité. Parce qu'on ne peut pas concevoir que c'est les gens maintenant qui viennent par les motos maintenant et retournent et repartent maintenant avec les engins, donc des équipements militaires et d'autres engins militaires tels que les véhicules autres là. Cela veut dire que les armes dont dispose notre État donc, servent aussi donc, à utiliser contre nous-mêmes une fois au mains des ennemis. Ils savent que ces armes-là aussi sont sophistiquées. Sinon, à quoi bon maintenant de s'accaparer maintenant de ces armes si nous n'avons pas? Donc vraiment, ces genres de situations, il faut que les militaires même acceptent de défendre l'intégrité du territoire au lieu de fuir et laisser nos armements aux mains maintenant entre les mains des obscurantistes et des fous de camp.
Alors il y a eu tout à l'heure une interview sur nos antennes où il y avait une explication de personnes qui aussi abandonnaient leur poste parce qu'ils devaient rester sur ces postes un an et non 3-4 ans comme cela est le cas. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez?
Non, bon, moi, en réalité, je ne comprends pas cette situation. Donc, il y a non seulement le manque de communication entre les militaires eux-mêmes, je dirais, mais ils ont bénéficié quand même de tous les atouts. Donc, une fois être là-bas, ils sont là quand même, ils ont appris le métier des armes pour sécuriser la population. Comment maintenant se sauver dans les camps militaires et laisser la population à leur propre sort alors qu'ils sont payés et équipés aussi et entretenus en jeu pour accomplir leurs devoirs et leurs alliés.
Alors, c'est une dernière question à votre rencontre. Est-ce que vous répondriez, si possible, à un appel de l'État, de civils, de simples citoyens, pour rentrer également à l'armée, pour aider à sécuriser le pays? Est-ce que c'est un geste que vous aimeriez faire?
Oui, effectivement, hier même. Hier, le Premier ministre Boubou cité donc à Songo, donc a fait savoir que l'État va recruter 10 000 militaires sur les champs. Mais faire comme ce que les Burkinabés ont fait, moi, je suis contre ça. Pour pas que les civils même se déguisent donc en militaire ou les civils se portent comme volontaires maintenant pour contrecarrer cette menace-là. Ils n'ont pas d'armes, même s'ils ont d'armes, ils sont bien occupés pour accomplir ça. Sauf que c'est les gens qui sont bien formés et qui fuient le camp. Donc il ne faut pas que les militaires et les civils soient les boucs émissaires, donc soient aussi les contre-balles maintenant de ces militaires-là. Moi, je suis contre, en tout cas, l'implication même des civils donc dans ces combats.
Merci beaucoup, Adama, d'avoir partagé avec nous votre point de vue. Un auditeur en République démocratique du Congo, Patrick Bouli Kitanga, bonsoir.
Bonsoir, et bonsoir à tous.
Quel est votre regard sur cette situation?
Okay, merci beaucoup de nous accorder la parole. Je crois que, comme je l'ai dit sur la page Facebook, en disant que la problématique des groupes armés et du djihadisme qui affecte aujourd'hui beaucoup de pays africains prend des proportions de plus en plus inquiétantes. Et face à nos dirigeants aujourd'hui qui ne font que courir derrière les événements, qui n'agissent pas en avance pour stopper ce vent, ce fléau qui souffle aujourd'hui en Afrique, ces vraiment grave. Voilà pourquoi je dis que non, ce problème qui affecte aujourd'hui beaucoup de pays africains, selon moi, je dis qu'il y a, deux raisons. La première raison est que les inégalités sociales, les écarts sociaux qui s'observent aujourd'hui entre les gouvernants et les gouvernés, il y a une poignée de gens qui ont presque tout au détriment de la majorité. C'est la première raison. La deuxième raison est que les Occidentaux s'immiscent dans les affaires des Africains. Une raison pour laquelle ce soulèvement qui s'observe par-ci, par-là. Et si je me rappelle bien d'un discours du chef de l'État français, ancien président Sarkozy, qui a dit, il s'adressait à ses amis américains en disant une bonne amitié, c'est laisser ses amis à penser différemment. Aujourd'hui, si les Occidentaux laissent les Africains à penser différemment, à organiser leur politique, je crois que ce serait une très bonne chose. Mais le fait pour les Occidentaux, bien sûr, qui se mêlent dans l'histoire, dans la politique africaine, c'est ça, c'est ce qui est à la base de toute cette cacophonie qui s'observe dans beaucoup de pays. Si je prends par exemple notre pays aujourd'hui, la RDC, où on combat les groupes armés, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe, les coups qui s'observent. Donc c'est compliqué cette histoire. Je crois que les Africains doivent prendre les choses au sérieux, surtout les dirigeants, doivent vraiment s'impliquer pour que les choses changent. La redistribution des richesses nationales doit être d'une manière équitable pour permettre à beaucoup de pays, pour permettre à aux populations de bénéficier à ces richesses. Et le problème va se terminer de soi. Mais si on ne veut pas agir de la sorte, ils vont commencer à courir derrière les événements et ça sera de plus en plus grave et compliqué.
Merci beaucoup Patrick d'avoir partagé avec nous votre point de vue. Ce sont aux Africains de régler les problèmes qui se passent dans chaque pays en Afrique et notamment ce qui se passe actuellement au Mali. Comment l'armée peut-elle venir au bout des djihadistes? Nous en parlons ce soir. Un seul numéro pour participer à cette discussion. Le 001 202 205 26 33. Nous avons Mariam Koulibaly à Bamako. Bonsoir.
Bonsoir Kia, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, plusieurs auditeurs s'inquiètent de la situation au Mali. Certains pointent du doigt le gouvernement. C'est le cas d'Archiduc Théodore N'Djamena. Il a dit ceci: le gouvernement est faible, impuissant, désorganisé, incapable de combattre les groupes armés et c'est vraiment déplorable. Qu'avez-vous envie de lui répondre, Mariam?
Kia, moi je pense que les gouvernements maliens, ils traînent sur cette affaire. Parce que je pense que ceux qui sont là pour nous aider sont en train de nous aider. Ils ne sont pas en train de nous aider. Ils sont en train d'aider plus que la rébellion. Et la rébellion est devenue un commerce en ce moment. Quand quelqu'un vient, il est libre, il négocie, le gouvernement négocie avec lui, il prend des millions, il s'en va, il y a un autre qui sort la tête. Et c'est comme ça. Moi, je ne vois pas de solution.
Négocier n'est pas la solution. Parce que plusieurs auditeurs parlent également de négocier avec les djihadistes. Selon vous, quelle serait la solution pour aider les populations?
Ça fait 30 ans qu'on est en train de négocier, il n'y a pas de solution. Moi, je pense qu'on doit laisser l'étape de la négociation. Il faut surtout, je ne dis pas négociation, mais je dirais... Une confrontation, il faut montrer à ces gens qu'ils ne sont pas les seuls qui sont forts. Il y a d'autres qui sont plus forts que eux. Tant que le gouvernement ne passe pas par ce chemin, regarde, quand la France est venue pour la première fois, il est venu armé, il a frappé avec la grande force et ils ont gagné. Mais maintenant, ils sont en train de voler, ils sont en train de là où il y a les mines d'or au Mali, là où il y a le pétrole, c'est ça qu'ils sont en train de négocier avec ces gens. C'est pas avec les gens.
Donc il faut frapper fort de nouveau, mais comment faire quand les populations dorment avec l'ennemi et se réveillent le matin en se faisant certains égorger, et les gens disent que ce sont des gens qui viennent, qui sont des fois des villages ou qui viennent de façon civile, hein, qui viennent des fois en deux roues.
Les rebelles sont c'est la population elle-même.
Donc comment faire pour frapper fort?
Les gens avec qui on dort, les gens avec qui on mange, ce sont ces gens qui s'habillent autrement. Ce sont ces gens qui sont des mèches avec les je ne sais pas comment je vais dire. Ce sont ces mêmes personnes qui sont avec les chefs rebelles. Mais il y a, je ne sais pas, c'est vraiment déplorable.
Mariam, restez avec nous en ligne. Un auditeur souhaite intervenir et apporter son avis. Il s'agit de So Abdourahman Ozil, qui est à Brazzaville. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Oui.
Que pensez-vous de la situation?
Oui, moi, je pense que cette situation, c'est ce que Mariam est en train de dire. Ce gouvernement n'est pas sérieux. Parce qu'on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui tue la population. Ça, c'est impossible de négocier avec ces gens. Moi, j'ai l'impression que la communauté internationale a laissé tomber la population du Sahel. Parce que ce qui se passe au Sahel, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur. Si j'entends les gens qui tuent la population civile et personne ne fait rien. Et ce gouvernement est en train de nous dire de négocier avec les terroristes qui tuent les Maliens. Chaque jour, depuis 6 ans, c'est chaque jour il y a un Malien qui est tué par ces gens-là. Et puis, ils sont en train de nous dire de négocier avec ces gens. Moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que Barkhane fait au Sahel? Parce qu'on ne peut pas prendre le territoire malien. Et puis, le Barkhane est là et dit qu'ils sont en train d'aider. Comment peux-tu comprendre que ces gens-là ne m'aident pas? Et puis, une autre question que je me pose, qui arme ces gens-là? Avec des armes lourdes qui viennent attaquer un camp pour assassiner des militaires et assassiner les populations civiles. Qui arme ces gens-là? Moi, il faut vraiment si on parle avec la France, que France soit claire, qui nous dit comment ils nous aident. Pour éradiquer ces gens au nord de l'île. Sinon, on ne peut pas accepter de négocier avec un terroriste qui tue des gens.
Merci, Monsieur Sow, d'avoir partagé avec nous votre opinion. On va aller à Maroua, au Cameroun, au nord, avec Kwago Kim via Olivier. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Bonsoir. Alors, quel regard portez-vous sur la situation? Comment venir à bout de ces djihadistes?
Bon, moi, je dis que tout d'abord, c'est une problème d'organisation. C'est-à-dire, l'État du Niger, du Mali, du Burkina et la frontière Mauritanie ne sont pas organisés. C'est-à-dire, l'armée n'a pas un leader. Il faut des stratèges pour bien s'organiser afin de frapper fort ces djihadistes. Quand on vient, on prend, il y a un laisser aller, comme je l'ai déjà pensé, il y a un laisser aller dans la prise de décision. Il faut pas se replier, il faut toujours rester sur ses gardes.
Alors c'est sûr que quand on est face à cette armée des personnes qui n'ont pas peur de mourir, c'est des situations qui sont très complexes. Par rapport à l'organisation dont vous parlez, d'autres auditeurs ont dit qu'il faut que le problème soit réglé par les Africains. Donc l'armée africaine peut suffire avec une organisation selon vous, ou il faut l'aide de forces internationales, de forces étrangères?
Bien sûr, madame, l'armée africaine a seul ne suffit pas. Il faut absolument l'aide, comme on a fait de la force extérieure, c'est-à-dire Barkhane et du G5 Sahel. Ou encore les États-Unis doivent faire ce qu'il y a. Imagine, une décision a été prise après que les forces doivent s'unir afin de combattre les terroristes. Mais depuis lors, la décision est passée, il n'y a pas de pratique. Quand nous attendons d'avoir du financement avant de lancer l'assaut, ça ne sert à rien. Il faut que l'armée extérieure appuie logistiquement ou en formation nos hommes en uniforme afin de bien mater ces terroristes. Mais quand l'armée est abandonnée, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ont peur d'aller affronter ces terroristes, on ne va jamais finir avec ces problèmes de terroristes. Et pire encore, le gouvernement malien dit de négocier avec les terroristes. Mais négocier comment, madame? Négocier comment? S'il fallait des négociations que les soldats tchadiens ou encore d'autres qui ont perdu leur vie là-bas, c'est en vain.
Merci beaucoup, Kim, via Olivier, de nous avoir d'avoir donné votre avis. Nous avons Diallo Tierno Oumar à Conakry qui souhaite également intervenir. Bonsoir.
Oui, bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
Alors, vous avez donné dans votre commentaire qu'il y a un manque de cohérence et de sérieux de l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans cette lutte contre le terrorisme. Que voulez-vous dire ?
Oui, tout à fait, parce que moi, je doute vraiment la sincérité de l'ensemble de ces acteurs qui sont dans cette lutte, que ce soit les militaires qui sont sur le terrain, que ce soit les dirigeants. Parce que moi, au début, je pensais que le problème du terrorisme allait seulement limiter dans les pays voisins de la Libye ou bien juste les pays au centre du Mali ou au nord du Mali. Mais maintenant, ça dépasse les frontières, ça risque de contaminer de toute la région de la CEDEAO. Ça devient vraiment très inquiétant parce que si vous connaissez la zone sahélienne, je pense qu'il n'y a ni des aéroports, il n'y a ni des ports où les djihadistes extrémistes puissent procurer des armes lourdes parce qu'ils sont plus armés que les armées républicaines. Ce qui m'inquiète de plus, d'où viennent réellement leurs armes? Il faut aller à la profondeur, il faut aller au niveau des grandes institutions pour voir, il faut aller voir avec les pays voisins. L'exemple, le Mali, le Mauritanie, le Burkina Faso sont des pays qui sont entourés par d'autres pays. Il faut que ces pays-là ferment leurs frontières, il faut que ces pays-là assurent leurs voisins, il faut que ces pays-là apportent les mêmes forces, et financièrement et aussi matériellement, il faut aussi des hommes qui viendront sur le terrain. Mais une fois qu'il y a des armées qui sont déployées sur le terrain, ils sont toujours déroutés. Leur état-major est frappé. C'est l'armée d'ailleurs actuellement qui sont vraiment plus vigés. Parce qu'à un moment donné, ce sont les populations civiles qui se déplacent, ce sont leurs habitations, leurs villages qui étaient visés. Mais aujourd'hui, ce sont les états-majors des armées qui sont saisies dans le terrain du combat, qui sont vraiment vivées par les djihadistes. C'est devenu vraiment très inquiétant parce que les armes qu'ils utilisent, ça a été fabriqué quelque part, ça a été vendu par quelqu'un, ça a été transporté soit par bateau ou par l'avion pour l'arriver dans le Sahel.
Merci beaucoup.
Il faut que les pays voisins du Mali...
Les pays voisins et les grandes puissances doivent intervenir. Merci beaucoup. Bakary Keïta, qui est au Mali. Bonsoir.
Allez. Bonsoir.
Comment faire, selon vous, pour venir à bout de ces djihadistes?
Bon, le mot djihadisme, c'est un problème très compliqué. Quand même, il n'est pas tellement facile de venir à bout de ces djihadistes, parce que c'est des guerriers vraiment très, très forts. Et surtout là où nous sommes, c'est la guerre asymétrique, quoi. Donc, c'est pas facile vraiment. Si c'était une guerre corps à corps, c'est possible, mais une guerre asymétrique, vraiment, les solutions quand même sont quand même limitées. Mais il va falloir que la communauté internationale s'ajoute à nous, de nous aider vraiment, surtout dans les renseignements, pour que nous pouvons vraiment éradiquer, vraiment, bouter vraiment les terroristes hors du Mali. Quand même, ce n'est pas un problème facile. À l'heure où nous sommes, le Mali seul ne peut pas. Il faut vraiment l'implication de tout le monde. Il faut un effort azimut, vraiment, pour résoudre ce problème.
L'implication de tout le monde, en un auditeur qui s'appelle Malik Laya, qui dit « Laissez les Mauritaniens s'en occuper en leur donnant un droit au but. Les Maliens les ont déjà laissés et c'était propre juste après. » Que pensez-vous de ce commentaire?
Bon, c'est, même nous, on est tellement méfiants vraiment de nos pays frontaliers. Quand même, la Mauritanie, still, quand même, on n'est pas tellement d'accord avec ça. Parce que je suis quand même des années où le président ATT avait dit que le Mali seul ne pourra pas vaincre vraiment ces rebelles. Il faut l'implication de la Mauritanie, de l'Algérie. Mais ils l'ont répondu vraiment avec du bout de lèvres. Donc ce qu'ils disent maintenant, moi je ne pense pas que ça soit vraiment une réalité.
Il y a Alphonse Boaki, en dernier commentaire, qui tient beaucoup à la force G5 Sahel, à l'implication africaine, qui a besoin de beaucoup plus de financement pour être opérationnel selon lui. Merci à Bakary Keïta, Mariam Koulibaly et à toutes les autres personnes qui ont pu participer. Un grand merci également à l'équipe technique composée entre autres aujourd'hui de Georges Léonard Sagno et Firmin Max Koyaweda. C'était Etia Badou avec vous. Excellente suite au programme à l'écoute de VOA Afrique. Thank you.